7h50, Alexandra Ben Saïd. Votre invité ce matin est écrivain. Il publie Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla. C'est chez Gallimard.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
Edgar et Ludmilla s'aiment. Ils se séparent 6 fois. Ils se marient 7 fois. Ça, c'est pour l'histoire. Est-ce que ça peut être autre chose qu'un roman?
C'est un conte, mais c'est aussi un reflet peut-être de la vie de certains et je pense de beaucoup plus de monde qu'on ne croit aujourd'hui, parce que la vie s'allonge, les gens évidemment se séparent plus, ça tout le monde le sait, mais ils se retrouvent aussi plus. Et voilà, c'est une longue histoire d'amour sur 50 ans, dans laquelle les séparations sont peut-être encore plus importantes que les retrouvailles, c'est celles qui nourrissent l'amour en fait.
Qu'est-ce qu'on apprend à se quitter et se retrouver, à divorcer, à se marier? Ça sert à quoi? C'est bizarre comme processus.
Oui, mais justement, quand on raconte ça comme ça, bon, moi, il se trouve que, à titre personnel, j'ai pratiqué un petit peu ça, parce que je me suis marié plusieurs fois avec la même femme. Et quand on raconte ça comme ça, ça fait rire, et au fond, on comprend pas grand chose. Et en réalité, il y a une logique, et je pense qu'il y a que la littérature, peut-être, qui permette d'entrer dans cette logique, de comprendre, ce qui, dans l'intimité des couples, fait qu'à un moment donné, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de se séparer, et puis, ils ne se retrouvent que mieux par la suite. En tout cas, c'est ce qui arrive à ces deux-là, dont les destins sont quand même assez exceptionnels, puisqu'ils traversent le siècle, avec deux destins formidables.
Formidable, en effet. Bon, l'union qui reste à inventer, qui doit se réinventer, l'image, elle fonctionne aussi pour l'Europe. Là, je vous ramène à vos reportages en Europe centrale, Jean-Christophe Ruffin, qu'on a lu dans Paris Match. L'Autriche, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et la Croatie, ces pays-là, ils sont hostiles au modèle européen. Mais au fond, que veulent-ils ?
Oui, alors ça c'est un autre type de mariage, mais disons que je crois que c'est très paradoxal, parce que ils sont très en réalité très européens et très dépendants de l'Europe, hein, ne serait-ce que pour leur économie, même toute la culture les ramène à l'Europe. Simplement, ils veulent d'abord avoir plus de poids dans le système, ils trouvent qu'ils sont un peu marginalisés, ce qui est pas faux. Et puis depuis la fin de l'Autriche-Hongrie, après la guerre de 14, cette région du monde c'est un genre de trou, c'est-à-dire qu'il y a plus rien qui les unit. Et donc, comme ils ont un passé de conflit entre eux, ils sont très morcelés. Et en réalité, on dit qu'ils en veulent à l'Europe, mais ils en veulent d'abord à leurs voisins. C'est-à-dire que la Slovaquie se méfie de la Hongrie, qui se méfie de l'Autriche. Enfin, voilà.
Donc, ils ne peuvent pas constituer un quelque chose de central qui devrait nous faire peur?
Moi, j'y crois pas. Je pense que tout ce qui est Visegrad, etc., on a beaucoup brandi ça en expliquant.
Le groupe de Visegrad.
Le groupe de Visegrad, c'est-à-dire, voilà, Pologne, Hongrie, Tchéquie et Slovaquie. Qui constituerait un nouveau pôle, moi j'y crois pas du tout. Que les Chinois jouent à ça en les dressant un petit peu contre nous, parce qu'il y a une politique, hein, notamment chinoise de ça.
Ils ont beaucoup signé pour les nouvelles routes de la soie en Europe centrale.
Oui, tout à fait. Parce que c'est toujours un peu retenez-moi où je fais un malheur. Mais en réalité, ils ont besoin de l'Europe. Et on le voit très bien, même dans les démêlés d'Orban avec l'Europe. Il est toujours au bord du clash, mais il ne le fait pas, parce que ce sont des pays qui sont profondément ancrés dans l'économie européenne et surtout dans la culture. Enfin, c'est quand on traverse le Danube et quand on suit ce fleuve, on suit aussi peut-être le cœur de la culture européenne. C'est Zweig, c'est Musil, c'est Thomas Mann, c'est vraiment c'est l'Europe.
Donc... Alors vous allez être d'accord peut-être avec Nicolas Sarkozy. Il était vendredi à Budapest dans un colloque en présence de Viktor Orban, hein, le dirigeant hongrois. Et l'ancien chef de l'État dit « La Hongrie est profondément européenne, la Hongrie est un grand pays démocratique ». Est-ce qu'il a raison?
Là, je pense qu'il va un petit peu loin. C'est un pays qui est profondément européen, ça je le crois. En tout cas, qui demande à l'être, qui demande à le rester. Orban a commencé comme un démocrate pro-européen, faut pas l'oublier. Et puis, aujourd'hui, les choses sont quand même transformées. Et je pense que dans l'ensemble de ces pays, c'est la Hongrie qui est la plus inquiétante, parce que je ne vois pas d'alternative à Orban, autre que violente. C'est un régime qui, qu'on le veuille ou non, est quand même devenu... Non, il n'est plus démocratique aujourd'hui. Ça, je crois qu'on peut le dire.
Et depuis quelques jours, la grande famille de droite au Parlement européen, le PPE, l'a suspendu. Ça peut changer quelque chose?
Mais ils n'ont pas suspendu son parti. ils n'ont pas suspendu à grand chose. En fait, ils l'ont suspendu pour en attendant mieux. C'est-à-dire que ils voulaient pas l'exclure. C'était des combinaisons compliquées de la de majorité. En réalité, ils ont besoin d'Orban. C'est ça le problème. Et lui le sait très bien. Il est en permanence en train de jouer sur cette ambiguïté. Je suis dedans, je suis dehors. On a besoin de moi et en même temps, faut me donner plus de pouvoir. Mais c'est d'ailleurs toute l'histoire de la Hongrie à travers les siècles. Vous savez, la Hongrie était le seul pays qui avait réussi à arracher à l'Autriche ce qu'on appelait la double monarchie, c'est-à-dire à se donner un poids. Et la Hongrie, ils sont très très habiles pour faire ça. C'est-à-dire, on est dedans, mais on a quand même une position à part.
Le clivage nationaliste, je pense à la Hongrie, contre progressiste, ce clivage mis en avant par Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous paraît pertinent?
Non, je trouve que c'est très dangereux même d'ailleurs de le parce que d'abord c'est plus compliqué que ça dans chacun de ces pays, il n'y a pas d'homogénéité, il y a des oppositions qui sont là, on peut pas dire la Hongrie est entièrement tout le monde n'est pas pour Orban, je veux dire il y a d'une part et d'autre part encore une fois ils ne sont pas unis entre eux. Donc ils ne constituent pas véritablement une force articulée si vous voulez. Il y a des tendances populistes, mais il y en a chez nous aussi. Donc, si vous voulez, c'est plutôt un clivage qui existe partout, et peut-être même dans nos têtes d'ailleurs.
En France, à 2 mois des européennes, c'est la liste La République En Marche qui est en tête. Et aujourd'hui, on devrait avoir la ministre des Affaires européennes qui va être intronisée à sa tête. Donc quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages de Bruxelles.
Oui, mais alors là, je trouve que c'est le dernier clou dans le cercueil de la campagne. Parce que c'est vraiment... Elle est très estimable, cette dame. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on reproche à l'Europe, quoi. C'est la technocratie à l'état pur. C'est même été la mère supérieure des technocrates français. Elle était directrice de l'ENA. Bon, elle a passé toute sa carrière dans les ambassades. Moi, j'ai été ambassadeur, je sais ce que c'est. Je veux dire, faut être capable quand même d'aller acheter une baguette au coin de la rue, ce qui n'est pas vraiment le cas des diplomates. Non, je trouve que c'est une image. Moi, je regrette beaucoup que des gens comme, par exemple, Agnès Buzyn, qui avait une vraie, qui était une espèce de Simone Veil en puissance, qui avait une vraie expérience de la vie, parce que des médecins, bon, voilà, c'est genre comme ça qu'il nous faut, pour incarner l'Europe.
Bah, peut-être qu'ils vont la mettre en ticket avec l'écologiste Pascal Canfin, de WWF.
Oui, enfin, bon, ça, c'est à double peine. Non, je trouve que là,
vous avez la dent dure, ce matin.
C'est-à-dire qu'en pratique, ça veut dire que la campagne, ce sera Macron pour La République En Marche. Voilà, ça veut dire que c'est le président de la République. Et peut-être que c'est ça qu'on lui demande. Mais je trouve que vraiment, c'est un affichage catastrophique parce que c'est vraiment ce qu'on reproche à l'Europe, tout ce qu'elle est.
Allez, la dernière question, elle est pour l'écrivain. Il y a demain, les députés européens doivent voter une directive qui redéfinit les droits d'auteur. C'est une bataille, c'est un texte controversé. Alors, à grand trait, on a les artistes qui sont pour cette directive, et puis on a les Google, les Facebook, les Apple, mais pas seulement eux, qui sont contre. De quoi est-ce qu'il s'agit seulement d'argent pour vous, l'écrivain?
C'est surtout eux qui sont contre. Hein. Et d'ailleurs, Google a dépensé plusieurs centaines de millions d'euros ces dernières années pour créer un lobbying actif qui passe par plein de canaux d'ailleurs hein, pour discréditer cette directive. Moi, je trouve que il faut que le droit d'auteur continue d'être rétribué par le public et il faut que ces grandes majors qui s'approprient à la fois le travail des journalistes, le travail des auteurs, etc. Il faut qu'ils paient ceux dont ils utilisent le travail. Voilà, c'est simple. On n'arrive pas à leur faire payer d'impôts. Si en plus ils ne payent pas les droits d'auteur, alors là vraiment c'est une catastrophe.
Jean-Christophe Ruffin, les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est chez Grasset, c'est jeudi en librairie.
Gallimard.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Grasset.
Faut jamais faire ça. Et c'est chez Gallimard, je le répète.
Merci.
Et c'est jeudi en librairie. Merci à vous, Jean-Christophe Ruffin.
Merci Alexandra, et rendez-vous tout à l'heure, 8h.